Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure et pour parler ce soir non pas d'actualité locale mais d'actualité musicale de manière un peu plus large puisque nous avons eu la chance de nous entretenir un peu plus tôt dans la journée avec Wax Taylor qui signe son grand retour avec l'album The Shadow of Their Sons qui sortira dans deux jours. L'occasion était toute trouvée de l'interroger, de lui poser des questions sur sa manière de travailler, sur les thématiques qu'il aborde à travers cet album. Et je vous propose que l'on découvre ça ensemble sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous. Le nom de Wax Taylor ne vous est normalement pas inconnu puisqu'il est, depuis son premier album Tales of the Forgotten Melodies, sorti en 2005, une figure unique du paysage musical français et l'un des meilleurs représentants de l'art du sampling. Considérant les samples comme une texture sonore à retravailler, il puise aussi bien dans les productions des années 60 pour lesquelles il a un attachement particulier que dans le cinéma, sans oublier le hip-hop des années 80-90, scène dont il est originaire. 4 ans après son dernier album studio, By Any Beats Necessary, Wax Taylor s'apprête à sortir dans quelques jours The Shadow of Their Sons, sur lequel il a travaillé depuis 2 ans. Pour en discuter, nous sommes au téléphone avec lui. Bonjour.
Salut.
Ton précédent album, By Any Beats Necessary, était influencé par la tournée américaine de laquelle tu sortais. Est-ce que de la même manière, il y a eu un ou des événements déclencheurs, entre guillemets, pour ce nouvel album ou pas particulièrement?
En fait, il n'y a pas un événement qui a vraiment été catalyseur par rapport à cet album. C'est plus le ressenti que je peux avoir sur tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Et je pense que le fait de sortir d'une grosse tournée, d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir, se poser, c'est des moments en fait où tu prends un peu de temps pour réfléchir à tout ce qui peut se passer. Et j'avais le sentiment, paradoxalement, avec tout ce temps, qu'il était urgent de prendre le temps d'y réfléchir, en tout cas. Donc l'album est vraiment imprégné par ça, par cette idée-là, avec, je dirais, le curseur sur le fait de donner à penser et surtout pas donner des leçons, quoi. Voilà.
2020 a évidemment été une année particulière. Est-ce que toi, ça a chamboulé ton calendrier ou est-ce que de base, c'était une année que tu pensais consacrée au studio et à la préparation de cet album?
Non, c'était une année complètement consacrée au studio, donc quelque part, ça aurait pu être transparent pour moi, tu vois, ça aurait pu être, j'avais prévu d'être en studio, j'y suis, mais paradoxalement, en fait, ça a été quand même impactant, parce que je pense que, comme j'étais déjà dans cette réflexion sur tout ce qui peut se passer, et je parle pas seulement de la pandémie, je parle vraiment en fait de tout, parce que au final cette année, ce qui se passe avec le Covid, moi je considère ça un peu comme un accélérateur de particules. C'est pas, je dis pas que c'est un non-événement, c'est évidemment un événement majeur, mais c'est le reflet, la résultance de plein de choses en fait en bout de course. Donc ça m'a interpellé, en fait, ça m'a vraiment interpellé plus sur le global et sur tout ce que moi je peux avoir comme ressenti. Et puis après, ça a eu quelques impacts aussi sur la façon de travailler sur l'album, par la force des choses, quoi, parce qu'il fallait réinventer des méthodes de travail.
Sur ce ressenti de manière générale, on le ressent assez bien sur deux des 3 clips qui ont accompagné la sortie de l'album, The Light et Misery, qui a remporté d'ailleurs plusieurs prix. On est sur une esthétique, une vision assez sombre du monde qui nous entoure, et est-ce que c'est important de l'évoquer comme ça, visuellement, de manière un peu plus frontale que peut-être ce qu'on peut ressentir en écoutant la musique?
C'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que la musique elle a cette force, c'est d'avoir plein de portes d'entrée. Je pense qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles en fait à, par exemple, un titre comme Misery, t'as le discours en fait qui l'accompagne, t'as cette voix en fait qui amène quelque chose. Pour certains ça va être juste de la musicalité, ils vont pas forcément s'arrêter sur le thème et ce que ça dit. D'autres vont être beaucoup plus sensibles à la question, mais du coup le curseur en fait d'un clip et de ce que tu peux mettre en image, c'est une façon d'appuyer en fait ton idée. Quand j'ai fait même en fusée éclaireuse de cet album, le titre The Light, à l'automne dernier, en fait, il y avait un titre qui peut complètement passer pour un titre sans portée politique, réflexion, quoi que ce soit. Moi, j'en avais beaucoup, en fait, en note de bas de page dans ma tête. Et du coup, le mettre en image, c'était une façon de dire, je vous oblige pas à penser comme moi, à voir les choses comme moi, mais voilà, en tout cas, il y avait à un moment donné projeté un petit peu tout ce que moi j'avais en tête par rapport à ça.
J'ai lu quelques interviews de toi pour préparer celle-ci, alors qu'ils datent de plus ou moins longtemps, mais sur une relativement récente. C'était une interview en anglais. J'ai vu que sur la manière dont tu fonctionnes, tu avais arrêté de ne rien composer avant de retravailler des samples et que tu recréais tes instruments pour poser les bases de l'album. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Je pense que ça a été mal transcrit. C'est peut-être moi qui ai un anglais détestable et qui l'a mal compris et que je l'ai mal expliqué. Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que mon travail de composition, il s'apparente à la fabrication d'instruments avec des notes samplées, et que c'est quelque chose qui, encore une fois, moi, je suis, c'est mal la culture du sampling, c'est vraiment ma culture. J'ai pas d'a priori sur. Mon propos, il faut faire attention, c'est pas de dire. Ce qui est bien versus ce qui est pas bien, c'est-à-dire dire oui, en gros, prendre des boucles, c'est pas créatif, et couper des notes et rejouer ces mélodies, c'est créatif. Les deux peuvent être super bien faits, quoi. La question, c'est comment on l'approche. Et c'est vrai que, soyons honnêtes, c'est que dans la culture du sampling, il y a toute une frange qui est un petit peu la version guitare surgelée, quoi. C'est-à-dire le côté, je prends une boucle, je mets une batterie, et puis c'est parti. Et bon, quand c'est DJ premier, c'est bien, mais tout le monde n'est pas DJ premier. Donc il y a un moment où il y a des choses qui flattent un petit peu parce que ça, c'est un peu ronflant, mais c'est en termes de travail, on n'a pas l'impression que c'est très très pertinent. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée en fait de jouer un petit peu avec ce patchwork, en fait, jouer avec des sonorités, des notes coupées, recréer quelque chose, et au final avoir une espèce aussi de jeu sur l'illusion sonore, tu vois, c'est-à-dire que t'écoutes quelque chose, t'as l'impression que tout a été joué, repensé, etc. Alors que quand t'écoutes les parties séparées, souvent chez moi c'est très foutraque, quoi. C'est-à-dire que t'écoutes, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et au final, c'est une somme de bordel qui en mise ensemble, ça fonctionne. C'est comme l'idée que la musique c'est du son, c'est du bruit organisé, quoi. C'est un peu ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les personnes qui seraient un peu moins initiées à comment marche le sampling et juste simplement comment toi tu fonctionnes, à quel point tu peux décortiquer un morceau pour en tirer juste la partie, l'instrument, la note qui t'intéresse, et justement voilà à quel point tu retravailles ensuite pour arriver à ce patchwork.
Alors moi ce que je peux essayer de faire pour quelqu'un qui comprend pas et il a parfaitement le droit et enfin j'ai aucun jugement, enfin c'est pas du tout enfin c'est normal hein, on voit quand t'es pas là-dedans de pas forcément comprendre comment ça fonctionne. Je crois que la meilleure analogie que je puisse faire, c'est d'imaginer en fait un peintre devant sa toile qui passe un temps fou à regarder et à se demander et à se dire je remettrais bien un petit peu une touche ici, une touche là, ça manque de jaune, ça manque de ça, qui va chercher des couleurs avec sa palette et qui cherche des choses comme ça. Moi je suis dans cette logique là, c'est-à-dire que je fais de la musique, je fabrique des sons, je suis analphabète de la musique, j'arrive avec aucune appréhension de ce qui est censé être la norme ou pas, et je me retrouve avec mes instrus, et puis à un moment donné, je me dis, il manque un truc, une sonorité, et donc je cherche des sons, et puis il y a un moment donné, je rajoute un petit son, une petite sonorité, je vais découper une note, je vais voir si je peux la rejouer, si c'est rejouable, avec une note que j'ai extirpée d'un vieux disque, et puis, je sais pas moi, une personne va me dire, mais c'est quoi cet instrument, et je dis, je sais pas. Voilà, je sais pas, parce que c'est du son, en fait. Ça m'intéresse pas follement de savoir ce que c'est, et des fois, c'est pas un son. Des fois, t'as coupé une note dans un disque, et en fait, dessus, il y a un trombone, une trompette, un bout de guitare, tout ça, ça va ensemble, et toi, tu le rejoues. Et en fait, ça donne un global où c'est une sensation sonore. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. C'est-à-dire vraiment de pas avoir d'a priori sur ce truc. Et c'est ça, la magie du sampling, c'est que, pour moi, le sampling, c'est quelque chose qui nourrit aussi quelque chose que moi, j'appelle l'inconscient collectif dans le son, c'est que on se rend pas compte. Tu vois, moi j'ai eu des tonnes de fois des gens qui m'ont interpellé sur des titres en me disant c'est quoi cette boucle, tu vois, ça c'est un truc que j'ai entendu 300 fois, c'est quoi cette boucle que t'as utilisée. Et moi je disais c'est pas une boucle, je l'ai jouée, mais c'était pas pour dire tu vois, genre pour me vanter d'avoir dit j'ai composé ou quoi, si on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le son en lui-même a une telle évocation qu'ils ont l'impression d'avoir déjà entendu une boucle, alors qu'en fait c'est le son qu'ils ont déjà entendu, c'est cette évocation, tu sais, c'est le même sentiment quand tu es dans une pièce, tu vois un vieux papier peint et puis tu as une espèce d'impression de déjà vu. Et simplement, peut-être que, je sais pas moi, quand tu avais 7 ans, ta tante avait le papier peint chez elle, ou un truc qui y ressemblait, et ça t'évoque quelque chose. La musique, c'est pareil, je pense qu'en fait on a tous un inconscient collectif, ouais, de tout ce qu'on a pu emmagasiner, écouter, entendre. Moi ça m'arrive de composer, de plaquer des arrangements par exemple, et puis c'est au bout de 3 semaines, je me dis ah, mais en en fait, c'est exactement le même arrangement, enfin, c'est les mêmes accords que tel titre. Et je me dis, est-ce que je l'ai fait volontairement? Non. Est-ce que, inconsciemment, c'était pas présent dans ma tête? Évidemment, ça c'est certain.
J'avais lu que tu ne stockais pas du tout des sons qui t'intéressaient au fil du temps pour les retravailler, mais que tu marchais plutôt de manière spontanée au fil des écoutes. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ouais, ça, ça a été bien transcrit, alors. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça, parce que, en fait, je suis... C'est un peu comme une espèce de réaction épidermique, tu vois, c'est-à-dire que réécouter, ressortir de façon un peu méthodique des sons, ça me parle pas follement, en fait. J'ai besoin d'un accident, en fait. C'est-à-dire de provoquer des accidents, d'être là, d'écouter un son, et puis d'un coup, ce son, il fait tilt. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, mais tiens, pour tel morceau, ça serait super bien d'utiliser ce truc-là, ou de commencer carrément un morceau, parce que je viens d'avoir une matière, et je me dis, oh, attends, mais ça, c'est mortel. Donc, je suis vraiment à la réaction, un peu comme un gosse, quoi, tu vois, avec une boîte de jouets, en fait, qui est lassé par ses jouets, en fait, et qui cherche autre chose au fond de la boîte, quoi. Donc, il y a un peu un truc comme ça.
Ce qui inclut, j'imagine que tu écoutes en permanence énormément de sons et de musique dans lesquels piocher justement au fond de la boîte.
Ouais, dans les périodes en tout cas de composition encore plus, quoi. C'est-à-dire que t'écoutes plein de choses, et puis c'est des écoutes un petit peu, il y a différents types d'écoutes. Il y a des disques que tu sais que tu vas vraiment apprécier, donc tu vas prendre le temps de les écouter. Puis il y a des disques, soyons honnêtes, il y a aussi des disques, il y a toute la France, par exemple, je sais pas moi, Easy Listening 70s, des choses comme ça, où ça va être des reprises de titres connus ou de choses où en final, bon, c'est pas très intéressant, mais par contre ce qui va t'intéresser, c'est encore une fois, c'est l'environnement sonore, c'est la façon dont ça a été mixé, c'est la façon dont ça a été joué à cette époque-là, c'est la réverb sur telle trompette, c'est tel et tel élément. Donc ça fait que tu brasses beaucoup de choses, t'as besoin d'écouter des trucs constamment. Hein.
Tu es aussi passionné de cinéma, tu utilises beaucoup d'extraits de dialogues de films dans tes compositions, et à l'inverse des sons, là tu vas cumuler des extraits au fil du temps.
Ouais, pour les dialogues de films, je peux pas être dans le côté spontané, c'est pas possible, parce que là ça demande vraiment de réfléchir, tu vois, tu pars avec une idée, c'est un exercice qui est quand même super bizarre de vouloir faire parler quelqu'un, de vouloir s'exprimer avec les paroles de quelqu'un d'autre. Donc ça nécessite d'avoir beaucoup de matériaux, parce que tu pars avec une idée et tu te dis, tiens, je voudrais parler de tel sujet, donc faut que je trouve des phrases. Donc soit tu te dis je le fais en temps réel, et là il te faut 17 ans pour faire un morceau, soit là il faut être dans quelque chose de beaucoup plus organisé, méthodique. Et moi, ça fait plus de 15 ans que je collecte des phrases de films, des choses. C'est comme un sixième sens, tu vois. Genre je regarde un film, ça me j'ai pas besoin de me dire il faut que je trouve des phrases, en fait je regarde le film comme n'importe qui. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une phrase qui fait écho, soit parce que le sens m'intéresse, soit parce que la dynamique et la rythmique de la phrase me dit, tiens, ça c'est hyper cool à utiliser. Et donc après, voilà, je mets tout ça en forme, et il y a quelque chose de très organisé, ouais, sur cette partie là
et tu te limites dans une période de film d'une certaine époque, ou tu peux aussi bien aller piocher dans des choses des années 60 comme des choses sorties plus récemment?
Alors en fait, j'ai pas de règle par rapport à ce que je vais utiliser, mais sans avoir une règle, c'est quasiment je réfléchis, mais je pense pas avoir jamais, je dirais peut-être une connerie, mais je crois pas avoir jamais utilisé un extrait de film des années 2000 ou plus, quoi. C'est-à-dire que peut-être quelques extraits des années 90, mais très peu, peut-être quelques-uns des années 80, mais après beaucoup beaucoup plus. Si je devais te dire ce que j'utilise le plus, c'est beaucoup 60-70, un peu années 50. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas plus loin, quand tu vas vers les années 30-40, là le son, en fait, il est très usé, c'est pas très très intéressant à utiliser, c'est pas très sonore. Les années 50, c'est une vraie patine, il y a un truc très cassé, comme dans le jazz des années 50, dans les enregistrements, il y a un truc dans le son lui-même, il y a une vraie patine, en fait, qui a un côté suranné. Après, les années 60-70, c'est encore autre chose, on est dans une espèce de richesse dans le dialogue et dans plein de choses, donc c'est un cumul de toutes ces choses-là. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de jouer avec ces différentes périodes pour créer. Mais c'est pareil avec le son, c'est des formes d'anachronisme, tu vois, où tu vas utiliser là pour revenir plus à la musique, tu vois, tu vas utiliser des cuivres des années 50 parce que t'aimes bien cette sonorité là des basses plus années 60 parce que c'est un peu plus rond, des éléments rythmiques des années 70 parce que la dynamique elle va être un peu plus marquée, et voilà, et tu joues avec tous ces trucs là pour créer quelque chose d'aujourd'hui, mais qui s'appuie sur le passé, quoi.
On va retrouver également sur cet album des featuring. Tu as toujours dit que ça venait des rencontres, des liens qui t'intéressent et des manières de travailler avec ces personnes qui fonctionnent. Et tu as toujours assumé la volonté de ne pas faire du feat pour du feat. Tu as pris soin de détailler d'ailleurs ce qu'on va trouver sur les réseaux pour annoncer la venue de l'album. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces personnes qu'on va trouver sur l'album ?
Bien sûr, il y a 9 personnes qu'on peut entendre en featuring sur cet album. Je dirais presque 8 plus 1 parce que Gil Scott Heron, c'est particulier, c'est entre guillemets pas vraiment un featuring, c'est plus une présence et un témoignage, et c'est quelqu'un c'est une sorte de parrain fantôme en fait de tout ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui moi compte dans mon parcours musical. C'est quelqu'un que j'aurais voulu inviter sur mon deuxième album et ça n'a pas pu se faire à l'époque, et malheureusement il est parti trop tôt. J'ai contacté son fils en lui demandant si on pouvait utiliser un élément, et j'avais une idée en tête. Et puis après, des gens comme sur l'album, t'as des gens comme Mark Lanegan en fait, qui est peut-être une des plus belles incarnations en fait de ce que j'avais envie d'exprimer avec cet album. C'est quelqu'un qui a un parcours de vie et je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, qui est à la fois qui est très très loin de mon univers musical, mais qui est vraiment pas loin de mon univers personnel, dans le sens d'une histoire, d'un parcours. On n'a pas du tout le même parcours, hein. Ma vie est beaucoup plus plate que celle de Mark Lanegan, mais par contre je me retrouve dans ce côté où des valeurs et des consciences de classe, voilà, une conscience de classe, c'est quelque chose qui est important pour moi. Après j'ai travaillé avec Mr Leaf, qui est quelqu'un que ça fait 20 ans que je l'écoute, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'avais jamais rencontré, donc c'est chouette parce que c'est des belles rencontres, tu vois. Aujourd'hui c'est quelqu'un que je peux considérer vraiment comme un pote, c'est chouette. Dell, Funky Homo Sapiens, là on est sur quelqu'un, c'est des gens que j'écoutais il y a 30 ans, donc c'est toujours très très étrange que ce soit lui en solo avec Hieroglyph Crew, avec Deltron, ou même sur du Gorillaz. Enfin bref, c'est quelqu'un qui m'accompagne musicalement depuis très longtemps. Il y a la voix de Rosemary Stanley de Moriarty. Là, c'est un peu comme une forme de caméo, parce que l'idée, c'est presque de lui faire faire une sorte de sampling musical. Elle a complètement joué le jeu. Puis c'était vraiment une incarnation sonore, puisque le reste, c'était vraiment une sorte de petit caméo, on va dire ça comme ça. Je ferais le parallèle avec Adeline, qui est une chanteuse d'origine française installée aux États-Unis, qui a un talent dingue et qui a gentiment accepté à peu près le même exercice. Donc, je suis hyper content d'avoir fait ça avec elle. Après il y a des gens comme Eugen Blackrock, qui est une rappeuse sud-africaine, et ça c'est une super belle rencontre aussi, parce que Eugen c'est quelqu'un qui c'est assez étrange de se dire que, enfin c'est étrange, c'est-à-dire que elle est sud-africaine, et on a moi en France, elle en Afrique du Sud, on a les mêmes références culturelles qui sont plus aux États-Unis, quoi, avec vraiment beaucoup beaucoup de choses en commun. Et puis je suis en train de réfléchir à qui j'oublie lâchement. On a cité pas mal de gens, hein. Si j'en oublie, je m'en excuse, mais ça fait pas mal de monde.
Tu vas repartir, si tout va bien, on le souhaite, en tournée à la fin de l'année. Mais avant cela, en janvier, tu fais toute une série de rencontres chez des disquaires. Est-ce que c'était important de montrer ce soutien et de faire cette action dans la période actuelle, et puis après l'année qu'on a traversée?
Ah ouais, j'ai envie de te dire que c'était un acte en soi qui avait plein de raisons. C'est-à-dire, évidemment, déjà, on va pas se raconter l'histoire, tu vois, j'ai un album, j'en fais la promotion et il y a un côté bassement promotionnel, hein. c'est pas grave de le dire, mais j'aurais pu faire bien d'autres choses. J'aurais pu faire des rencontres snack par exemple, où pour moi il y avait une envie d'envoyer un message auprès des indépendants, auprès des disquaires indépendants, parce que les disquaires indépendants, comme les libraires, à un moment donné, on a bien vu en fait, ont été considérés un peu comme la dernière roue du carrosse, dans un monde où on a le droit d'aller chez Bricomarché acheter une ponceuse, mais on peut pas aller acheter un livre. On a vécu tellement d'absurdités dans cette année folle et malheureusement je pense pas qu'on soit arrivé au bout du tunnel là-dessus, que j'avais envie d'envoyer un message. Alors encore une fois, nous, quand je dis nous, je parle des professionnels de la musique, et on est des gens adultes, responsables, conscients. J'ai passé un an de ma vie à Angers en DESS, direction d'équipement musique actuelle, à apprendre un métier, à apprendre à être un professionnel il y a longtemps. Donc j'ai eu la chance et le privilège ces 15 dernières années de rencontrer des gens qui aiment leur métier, qui sont sérieux, responsables, et qu'on a pris pour des enfants dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on estime qu'ils sont pas capables de faire respecter certaines choses. Après, on a vu des tonnes d'aberrations avec, on va même pas les égrener, hein, du Puy du Fou au reste, au concours de Miss France, enfin, tout ce qu'on peut voir au quotidien qui nous rend dingue. Donc c'était une façon de dire aussi, voilà, on peut faire des choses, on peut continuer, on va pas s'arrêter de vivre, mais ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas conscient des problématiques de santé publique, qu'on va faire n'importe quoi, qu'on va masser des gens sans réflexion. Donc moi j'ai fait le tour là de tous les disquaires que je vais aller rencontrer, on a discuté simplement, disons voilà, comment on met ça en place, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi votre protocole, qu'est-ce que vous voulez que je passe comme information. Et c'était une façon, voilà, de dire, on est la société civile, tous, hein, c'est-à-dire c'est pas seulement les musiciens, etc., c'est tout le monde, quoi. Faut arrêter de déconsidérer la société civile, on est capable de s'organiser, on est capable de... Je dis pas qu'on est tous intelligents, mais on a une forme d'intelligence collective, et il y a un moment donné, il faut peut-être arrêter d'infantiliser les gens, parce que c'est comme ça qu'on arrive avec ces excès qui deviennent un peu par réaction, un côté frondeur à la française, parce que justement, les gens, je pense que quand on les prend trop pour des cons, il y a un moment donné, ça ressort par le mauvais chemin.
Est-ce que, pour autant, pour la suite, bon, c'est un très vaste sujet, mais est-ce que toi, personnellement, au-delà de la situation actuelle qui n'est pas réjouissante, loin de là, enfin actuelle et des années passées, est-ce que toi, tu es optimiste de manière générale? Est-ce que tu vois des raisons d'espérer, que ce soit voilà, dans l'engagement des gens, en termes de créativité, ou pas spécialement?
C'est une question qui est assez complexe parce que j'ai un petit chromosome collapsologue, mais en même temps, je suis pas forcément pessimiste. C'est un peu paradoxal. Je disais la semaine dernière à quelqu'un qui me posait la question que je me considérais comme un pessimiste, comme un optimiste lucide. C'est-à-dire que c'est difficile de se lever le matin et de se dire que tout va bien et que tout va passer. La nature humaine, elle est ce qu'elle est. Elle génère le pire et le meilleur, quoi. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à se demander comment on peut être aussi con tous les jours quand on voit tout ce qui se passe et en se disant mais comment je pense qu'on s'est tout dit un jour mais on mérite l'extinction, c'est pas possible, et puis le jour d'après en fait on voit des trucs dingues et on se dit mais quand même quand l'humain a envie de s'y mettre, c'est incroyable ce qu'on est capable de générer, quoi. Donc il y a c'est des forces contradictoires, ça a toujours été, c'est présent, c'est-à-dire qu'à compter du moment où on est capable de se réveiller et de faire des choses, il y a de l'espoir. Après, c'est dur, il faut être honnête, c'est humain. Je pense qu'il y a des matins, on y croit moyen. Et puis, il y a d'autres matins, on se met un coup de pied au cul et on a envie d'y croire. Donc, je suis un humain lambda, standard, avec des questionnements, des doutes. Et, après, c'est vrai que, comme je te le disais en ouverture, c'est un album qui arrive à un moment de ma vie aussi, parce que l'horloge tourne où tu te dis, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent faire friction. Moi, je me dis, que oui, j'aimerais bien à un moment donné croire en des choses, en un projet, avoir un petit peu plus sortir de ce truc-là, parce que c'est une sorte de glissade aussi, tu vois. Moi, je vois bien que tu posais la question de savoir si j'étais si j'y arrivais à y croire, si j'étais pessimiste ou quoi, mais malheureusement, je serais hypocrite de te dire que rien n'a bougé dans ma tête depuis 10 ans. Je serais que l'inclinaison naturelle, c'est plutôt d'être de plus en plus d'avoir plus en plus de difficultés à être optimiste, voilà. Bon, maintenant, il reste un peu d'espoir, ouais.
Et est-ce que, pour terminer, il y a un morceau de l'album que tu aimerais présenter, si tu as quelque chose que tu as envie de mettre en avant, ou pas spécialement?
Eh ben, écoute, quand tu me le demandes comme ça, brûle pour point, je te dirais peut-être, mais vraiment parce que je réfléchis vite, je dirais peut-être Dusk to Dusk avec Eugen Blackrock, justement, parce que d'abord, c'est une belle rencontre, parce que c'est un texte qui est fort, c'est vraiment une super jolie plume dans le rap actuel, et puis il y a une noirceur, et puis c'est un morceau qui est ouvert par justement l'extrait que j'utilisais de Gil Scott Heron, et il y a un écho, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est un passage de relais, tu vois, mais il y a un truc, de la même façon, quand j'avais travaillé avec Ursula Rocker, j'avais l'impression qu'il y avait une filiation. Là, c'est pareil, et c'est vrai que cette ouverture avec Gil Scott Heron, avec son Painted Black, pour moi, c'est ce truc, en fait, toutes ces choses, en fait, qu'on met en perspective, c'est comme le titre Misery, tu vois, où j'utilise un discours des années 80, où tu te rends compte que chaque mot a une résonance contemporaine, en fait, tu peux le placer aujourd'hui, tu bouges pas une virgule, et malheureusement, tout est complètement actuel. De la même façon, il y a quelque chose, il y a une forme de noirceur par rapport à ça, mais de réaction aussi par rapport à ce que ça engendre.
Mais on va écouter ça dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, de répondre à mes questions. Et en espérant se revoir sur scène cette année, évidemment.
Eh ben, j'espère bien en fin d'année. Merci encore.
Et l'on écoute donc tout de suite le titre annoncé par Wax Taylor. Il s'agit donc de Dusk to Dusk, un featuring avec Eugen Blackrock.
Can only live when you give them breath. Given strength, can tip the scales, you'll be the bravest yet. See yourself from a different frame of reference. A cold world, frozen toes, numb on every step. Where nothing's permanent, everything eventually submits and bows low under the hand of gravity. Light work on inner self, lab coats find God. Space, hell, asteroids and certain death. While within, the sacred spiral spins. Divine symphonies that are harmonized only by Saturn's rings. Inside your lungs lies the power of the wind. Heart and mind made to follow the might of your will. The severed limbs still told to reach for the stars. With no arms to battle, still expected to spar. We've come so far since descending from spark. A field of yellow halos, faces turning to rock.
And we're running, running, dust to dust. So the light's on, but there's no one home. Dust to dust, dust to dust, dust to dust. The night moves slow. And we're running, running, dust to dust. Read what you saw, how the saying goes. Dust to dust, dust to dust, dust to dust. But time moves slow. Big brother wants your soul crushed. Can't believe you made a star. That's just wanna make that strong voice stutter. Won't rest until your body lies under eyes closed like shutters. With 6 feet of soil as bed covers. Dreaming of a hereafter, face to face with hidden masters. Pondering on questions with no answers. Less cures than cancers. The poor man's anthem, downtrodden. Face first in the asphalt. Facts are that fear is the killer of your mind's guards. Before any surrendering of arms. What's the difference between industries and prison yards? Where the votes for psychological scars? Is the sleeping mind dreaming the distraction and confusion? Reflection in the mirrors, neither riddle an illusion. Rather than exuded, keepers of the gates get consumed by the power they misuse. Hubris, 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 hubris,
hubris. And we're running, running, dust to dust. So the light's on, but there's no one home. Dust to dust, dust to dust, dust to dust. The night moves slow. And we're running, running, dust to dust. Read what you saw, how the saying goes. Dust to dust, dust to dust, dust to dust. But time moves slow.
Shine a light where the darkness is.
Dust to dust to dust, dust to dust.
Black thoughts on a star line like marcuses.
Dust to dust to dust, dust to dust to dust.
Shine a light where the darkness is.
Dust to dust to dust, dust to dust.
Black thoughts on a star line like marcuses.
Et voilà, c'est la fin de cette Covidienne. Merci encore à Wax Taylor pour cette interview. On rappelle que son dernier album, The Shadow of Their Sins, sort dans 2 jours, le 8 janvier, sur son label Lab Oratoire. Merci de nous avoir écoutés. Ce soir, c'est mercredi, c'est votre soirée rap et hip-hop. On démarre avant cela évidemment par le coureur de funk, suivi ensuite de Scratch Fellaz et Lamine. On se retrouve quant à nous demain soir pour la dernière Covidienne de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes du 103 FM.